Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons aujourd'hui au numéro 65 de la plus importante série concernant la prière. Nous aurons trois petits sujets. 1. Le pouvoir du nom de Jésus-Christ. 2. La foi comme un grain, c'est petit, comme un grain de sénévé. 3. Quand le soleil et la lune s'arrêtent. Et 4. Le secret de la prière et du jeûne. Premièrement, un incident est arrivé, et ceci il y a quelques années, à l'une de nos églises. C'est ce que nous raconte ce pasteur baptiste et qui démontre le pouvoir du nom de Jésus-Christ devant plusieurs milliers de personnes. Ils avaient invité cette église-là un évangéliste. Et l'évangéliste disait aux gens que s'ils croyaient les paroles du chant qu'ils venaient de chanter, everything is possible, only believe. Tout est possible, croyez seulement. Alors, là, il verrait des miracles puissants, et encore ce soir même. Comme il disait cela, nous avons tout à coup remarqué qu'un homme marchait vite par le bas-côté vers la tribune. Il s'est approché de nous, une grimace démoniaque sur le visage. Et d'abord, nous croyions que c'était une personne dérangée et qui était entrée pour faire tout simplement du trouble. Mais plus tard, nous avons appris que l'homme était connu. Il n'était pas du tout physiquement fou, mais c'était un homme très violent et de mauvaise réputation, qui était entré auparavant dans plusieurs églises de cette région où simplement il aimait créer des troubles assez sérieux. On l'avait mis aux arrêts, mais la prison ne lui avait absolument rien enseigné, aucune leçon, et maintenant il avait profité de cette occasion pour à nouveau créer du désordre. Il était donc arrivé maintenant à la tribune et son attitude menaçante attirait l'attention des fidèles. Nous avons fait remarquer à l'évangéliste ce qui se passait et il y avait deux agents de police, heureusement, qui étaient prêts à intervenir. Ils avaient vu ce qui arrivait et ils étaient en train d'en venir aux prises avec l'homme. Il y a peu de doute qu'ils auraient pu l'arrêter, mais probablement cette violence aurait carrément ruiné cette évangélisation importante. L'évangéliste aussi leur a fait signe de ne pas intervenir tout de suite, en tout cas pas maintenant. Et après avoir demandé aux fidèles de baisser la tête pour prier, eh bien l'évangéliste a tout simplement marché vers l'homme tranquillement. Cet homme enragé a donc commencé à maudire l'évangéliste avec un grognement insolent en disant « Vous êtes du diable ». Et vous trompez les gens. vous êtes un imposteur et vous avez quelques anguilles sous roche. Du reste, je vais montrer à ces gens ce que vous êtes. » C'était une forte provocation et tout le monde pouvait voir que ce n'était pas des paroles en l'air. Comme l'importun continuait à injurier l'évangéliste avec beaucoup de sifflements et de crachements, il a même commencé à lever les mains comme pour exécuter ses menaces. Les agents de police venaient au secours de l'évangéliste et encore une fois, l'évangéliste leur a fait signe de ne pas intervenir. Il semblait que ce drame imprévu parvenait maintenant au comble et les critiques qui étaient venues cette nuit par curiosité, car il y a toujours des gens qui vont aux évangélisations uniquement par curiosité et surtout pour critiquer tout ce qu'ils verront et tout ce qui se fera. Alors ces critiques s'attendaient à une conclusion qui serait certainement triste et inévitable. Or, à ce moment de suspense, on ne pouvait pas s'empêcher de penser au temps où un certain Goliath maudissait le petit garçon David au nom de tous ses dieux et se vantait de le mettre en pièces. Cependant, les secondes s'écoulaient et quelque chose arrivait. Oui, quelque chose qui empêchait le provocateur de mettre à exécution ses méchantes vantardises. L'évangéliste disait d'une voix tranquille, mais tout de même décisive: « Satan, parce que vous avez défié le serviteur de Dieu devant ces gens, donc, en le nom tout-puissant de Jésus-Christ, vous devez tomber par terre à mes pieds. Et comme le tout-puissant nom de Jésus-Christ était mentionné, nous pouvions voir que quelque chose d'extraordinaire se passait. Les forces qui dirigeaient le provocateur malveillant étaient fortes, certes, mais elles succombaient au pouvoir tout-puissant du nom de Jésus-Christ. Aussi, tout à coup, l'homme qui avait défié effrontément le serviteur du Seigneur, et ceci avec des menaces et des accusations, tout à coup, il a poussé un gémissement terrible et il est tombé par terre en sanglotant d'une manière hystérique. C'est le nom de Jésus-Christ qui a donné ce résultat. Aucun autre nom dans le ciel ou sur la terre n'a le pouvoir du nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et c'est plus grand que tous les autres noms, n'oubliez jamais cela. Ce nom, c'est votre autorité. C'est notre autorité. Car par ce nom, toutes les choses partout sont les vôtres. Jésus-Christ disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seuls les vrais croyants peuvent se servir du nom de Jésus-Christ. Ceux qui désobéissent à la volonté de Dieu n'en auront pas le droit et les démons n'auront pas égard à leurs paroles. Ils connaissent bien la différence entre un vrai chrétien et celui qui en fait surtout semblant. Quelques juifs exorcistes de ce temps-là, des exorcistes ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Il croyait que ce serait une sorte d'un charme magique, et ils dirent « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche », Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. Et l'esprit malin leur répondit, « Ah oui !» leur répondit en disant, « Oh, nous connaissons Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, et même les maltraita de telle sorte qu'ils ont dû s'enfuir de la maison, totalement nus et blessés. Oui, quel est le secret de notre autorité dans la prière? Eh bien, c'est le nom de Jésus-Christ. Selon que le Père Céleste a donné tout pouvoir au Fils, le Fils aussi a donné tout pouvoir à nous qui sommes les croyants, qui sommes ses disciples. Et c'est le pouvoir de son Saint-Nom, le pouvoir de son autorité qui agit. Christ répète la promesse 1000 fois. Tout ce que nous demanderons en son Saint-Nom, il le fera. Saint Jean, chapitre 14, verset 13. Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Saint Jean, chapitre 14, verset 14. Nous devons demander et recevoir en son nom, afin que notre joie soit parfaite. À nouveau, Saint Jean, chapitre 16, verset 24. Nous devons chasser les démons et nous devons guérir les malades en son saint nom, selon Saint Marc, chapitre 16, verset 17 et 18. Donc, everything is possible if you believe. Tout est possible, jusqu'à transporter des montagnes si nous demandons quelque chose en le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Saint Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Dans ces versets, Christ dit que quelqu'un pourrait dire à une montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il a dit va arriver, la montagne lui obéira. Jésus-Christ dit ces paroles étonnantes au moment qu'il marchait sur une montagne qui était réelle. Oui, la montagne était la montagne des Oliviers. La veille, il avait traversé la montagne de Béthanie et après avoir vu le figuier de loin, il s'était arrêté pour en manger le fruit. Mais il trouva que l'arbre n'avait que des feuilles. Alors il dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Les disciples attendirent ce... Ils ont entendu, évidemment, ce qu'il a dit. Ils regardaient cet arbre, mais d'abord, ils n'ont pas pu voir quoi que ce soit d'évident et qu'il semble que rien n'était arrivé. Du reste, les feuilles étaient encore vertes. Mais voyez-vous, le lendemain matin, comme ils retraversaient la montagne, ils regardèrent le figuier et, cette fois-là, ils s'étonnèrent de le voir sécher jusqu'aux racines. Aussi, l'apôtre Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a totalement séché. » Saint Marc, chapitre 11, verset 21. C'est cette observation de l'apôtre Pierre qui fit produire la déclaration merveilleuse du Seigneur au sujet du pouvoir de la foi. Qu'est-ce qui est arrivé au figuier au moment où il était maudit? En effet, au moment même que Jésus-Christ a pris la parole, le figuier mourut. Mais vous comprendrez qu'il fallait du temps pour voir les résultats. Et par cette, on peut dire par cet incident très remarquable, Jésus-Christ révélait un autre secret essentiel de la prière. Car en priant, croire, c'est toujours avant de recevoir. Je répète, croire, c'est toujours avant de recevoir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 24. Nous ne devons pas croire que nous recevrons seulement dans un certain avenir lointain. Ce serait là un déni que Dieu avait déjà exaucé la prière, un déni que Dieu avait tenu parole. Nous devons croire que quelque chose arrive maintenant même s'il n'y a pas un seul petit morceau d'évidence d'un changement. Jésus-Christ a enseigné que l'exaucement vient au moment où la prière de la foi est faite, même quoi, même si c'est invisible à l'œil naturel, comme le figuier. Il nous faut louer Dieu pour l'exaucement de nos prières, comme Jésus-Christ louait Dieu pour la résurrection de Lazare pendant qu'il était encore dans le sépulcre. Nous devons croire que nos prières sont exaucées immédiatement parce que la parole de Dieu dit que nous avons l'exaucement. Cela, c'est la suprême révélation que Christ nous a donnée au sujet de la foi. Il ne s'agit pas de nos sens naturels. Si nous croyons avec la foi, l'invisible deviendra visible. Je répète, l'invisible deviendra visible et le visible deviendra invisible. Les symptômes disparaîtront de même que les feuilles du figuier furent, rappelez-vous, séchées. Voici donc le secret de recevoir des choses de Dieu. Nous ne les recevons pas parce que nous sommes dignes de la bénédiction ou peut-être parce que nous avons prié de longues prières pour quelque chose ou parce que nous avons un grand besoin. La foi, elle ne regarde jamais les conditions. La foi ne regarde jamais les symptômes. Mais elle en est, on peut dire, méprisante. Oui, elle les rejette et elle les regarde avec indifférence. La foi, c'est quelque chose de spécial. La foi ne dépend de rien que peuvent voir les sens, nos sens naturels. Voyez-vous, la foi créa les mondes où il n'y avait absolument rien. La foi n'est que la foi quand elle ne voit rien. Lorsque l'exaucement vient, ce n'est plus la foi, mais c'est la vue. La foi ne demande qu'une seule chose, qu'elle dépend de la parole de Dieu. tout ce que vous demanderez en priant, croyez simplement que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, comment peut-elle faire ôter des montagnes ? La plupart des gens supposent qu'une telle foi est absolument impossible à atteindre. Pourtant, voyez-vous, cette foi n'est pas quelque chose de phénoménal. C'est plutôt une foi persistante, oui, une foi soutenue, celle qui ne s'affaiblit pas sous une épreuve. C'est une foi qui rejette le témoignage des sens naturels et qui regarde la parole de Dieu comme l'autorité suprême, absolue. Christ dit « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Saint Matthieu chapitre 17, verset 20. Il n'y a donc rien de théâtral dans la foi d'un grain de sénevé. Semez-le dans le sol, et le lendemain, si on le déterrait, il n'y a pas du tout de changement en apparence. Regardez-le au bout d'une semaine et il y aura encore très peu de changements. Néanmoins, quelque chose arrive en effet, car au cœur de ce petit grain de sénevé, quelque chose commence à se mettre en mouvement. Oui, des milliards de petits atomes bougent en se complétant pour créer les premières cellules d'un sénevé. Le sol noir, un mouvement qui est petit et microscopique, mais néanmoins réel, a commencé dans le sol qui paraissait être rien de spécial. Le changement est donc tout à fait lent, on est d'accord, mais néanmoins, c'est incessant. C'est de la même chose pour la guérison, ce n'est pas toujours instantané. Enfin, après quelques jours, une toute petite plante pousse donc là sur le sol. Elle pousse de plus en plus haut, et la croissance ne cesse jamais jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie pour le développement du sénévé. Du reste, jusqu'à ce que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La foi, donc, comme un grain de sénévé, n'est pas une foi théâtrale, je viens de le dire, mais c'est une foi inexorable. C'est là la foi qui fera transporter des montagnes. C'est ce que nous dit Jésus-Christ. Où est-ce que les gens se sont trompés quand leur montagne ne peut pas se transporter? D'habitude, il n'est pas difficile à trouver la raison. La plupart d'eux sèment leurs grains de sénévé et alors ils retournent pour le déterrer. Ils prennent la foi du grain de sénévé pour la foi instantanée. Il faut que tout se passe tout de suite. Hein? Après qu'ils ont semé le grain de leur attente, ils retournent bientôt pour l'examiner. Et parce que le changement n'est pas celui auquel ils s'attendent, ils croient que rien n'est arrivé. Ils disent « Oh là là, je suis encore malade et il me semble même pire. Mes symptômes sont encore présents, je les sens. Je ne suis donc pas du tout guéri. C'est tout du blablabla. En se confessant, ils déterrent le grain de leur foi. Oui, en se confessant de cette sorte-là, ils acceptent la défaite, quoique la victoire est déjà en route. Car en effet, le grain commence à croître au moment qu'ils l'ont semé, mais leur foi, elle, hésite. Parce que la foi, comme un grain de sénévé, transportera des montagnes, oh oui. Ils croient que le grain devrait devenir tout d'un coup un arbre comme ça. Et lorsque cela n'arrive pas, ils se résignent à la défaite. Il y a quelques années, nous avons reçu une lettre de l'évangéliste Tommy Hicks. Dans cette lettre, il nous informa qu'il avait l'intention d'aller en Argentine pour commencer un réveil. Il dit qu'il avait prié longtemps pour cela, et oui, et que maintenant le temps était donc venu d'y aller. Il ajouta qu'il savait que Dieu allait lui donner une grande moisson dans ce pays-là. L'Argentine n'était pas un champ très facile. La nation était retenue par une forte dictature en ce temps-là. À vrai dire, l'évangéliste n'avait pas connaissance à ce moment du nom même du président d'Argentine. Mais lorsqu'il était arrivé à Lima, au Pérou, et pendant qu'il priait, Dieu lui parla du nom de Perón. Il prit des renseignements au bureau de la ligne aérienne et on l'informa que Perón était le nom du président de l'Argentine. Monsieur Hicks n'avait pas de doute que Dieu voulait qu'il partirait et qu'il parlerait personnellement même à cet homme. Lorsque il arriva à Buenos Aires, il fit connaître son intention à ses amis, mais il n'encourageait pas l'évangéliste et l'un d'eux lui dit même que sa proposition était totalement absurde parce que Perón, il était entouré de gardes et d'agents secrets et absolument personne n'était permis de le voir, sauf des fonctionnaires importants. Néanmoins, Tommy Hicks croyait que Dieu ouvrirait la voie et il décida de tenter de voir Perón. Après être arrivé au palais, il fit une demande à avoir une entrevue avec le président. Or, on lui dit « Ah, que cela était impossible !» Mais pendant qu'il était au palais, un des gardes tomba terriblement malade. Aussi, Tommy Hicks pria donc pour ce garde et ce garde était miraculeusement guéri. Il est possible que cet incident ait changé totalement la situation, mais en tout cas, on invita l'évangéliste à rencontrer le président le lendemain même. D'une manière ou d'une autre, Dieu entra dans cette entrevue. L'évangéliste trouva grâce auprès du président, qui lui donna même la permission incroyable de lancer une croisade de réveil dans le plus grand stade du pays. Ainsi, la grande croisade commença. Bientôt, les gens arrivaient en foule et 200 000 remplirent le stade. Avant la fin de la croisade, on dit que le même nombre était à l'extérieur, criant à entrer dans le stade, mais comme c'était trop plein, il devait rester en dehors. Toute la nation était émue à cause des prières et à cause de la foi du peuple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ parlait de transporter des montagnes, voulait-il dire des montagnes matérielles? Hein? On prie pour que le Cervin ou le Mont Blanc se déplace. Comme nous avons déjà vu, l'expression montagne est applicable également au figuré. Une montagne peut signifier quelque forte opposition qui barre notre progrès. Mais au fait, la promesse de transporter des montagnes comprend des montagnes matérielles, quoique les circonstances soient rares où il faut faire transporter une montagne matérielle. Dans l'évangile de saint Marc, Jésus-Christ parlait de cette montagne dans Marc, chapitre 11, verset 23. Cette montagne sur laquelle il était debout, c'était en effet la montagne des Oliviers qui se trouve vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La prophétie annonce que la montagne des Oliviers sera un jour transportée de sa situation actuelle. Pendant le grand jour de l'Éternel, où le jugement tombera sur les nations qui ont attaqué Jérusalem, le Seigneur Jésus-Christ sera debout encore une fois sur la montagne des Oliviers, peut-être près du lieu où il avait maudit le figuier. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Une moitié reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Et les eaux de la mer couleront par le lieu même où était jadis la montagne des Oliviers. Ses pieds, oui, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi, et là, on dit, il était en effet arrivé, cette chose-là. Et là, va arriver. C'est écrit dans Zacharie, chapitre 14, versets 4 et 8. Donc, Dieu a établi le temps pour le déplacement des montagnes. Et dans le livre de l'Apocalypse, saint Jean nous a dit que quand le cinquième sceau sera ouvert, les saints martyrisés, car il y en aura des milliers de martyrisés, des dizaines de milliers, vont crier à Dieu d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang versé sur les habitants de la terre ?» Apocalypse chapitre 6, verset 10. Aussi il leur fit dire de se tenir tranquille, en repos, encore quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux, verset 11. Mais Dieu n'oublie pas, jamais, il va oublier leurs prières. il tarde à cause de sa grâce uniquement, afin que tous les hommes aient une occasion de se repentir. Cependant, il faut que l'heure vienne, que cette heure vienne où la grâce est arrivée à sa fin et les anges se préparent à sonner de la trompette comme ils offrent les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et alors, ces prières vont être exaucées et un des premiers jugements sera celui d'une montagne embrasée par le feu qui sera jetée dans la mer. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devient du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie moururent. Et le tiers des navires fut totalement détruit. Apocalypse chapitre 8, versets 8 et 9. Les hommes qui prient selon la volonté de Dieu ont changé de plus grandes choses que des montagnes. Oh oui! Par exemple, au temps de Josué, les enfants d'Israël combattaient à outrance avec les habitants de Canaan. Ils avaient remporté une grande victoire, mais ils étaient sur le point de perdre, oui, de perdre les fruits de leur victoire, et ceci à cause de la tombée de la nuit. Oui, voyez-vous, leurs ennemis, eux, qui étaient très familiers avec le pays, pouvaient fuir dans les montagnes sous la protection des ténèbres. Et alors là, les enfants d'Israël ne pourraient pas les retrouver, les pourchasser. Aussi Josué était là, debout, devant Israël, et il commanda, figurez-vous cela, il commanda au soleil et à la lune de s'arrêter dans leur course. Et le soleil et la lune lui obéirent. Alors Josué parla à l'Éternel en présence d'Israël. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » Et toi, lune, sur la vallée d'Abchalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit même sa course jusqu'à ce que la nation a pu tirer vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Voyez-vous, si ce miracle n'est pas suffisant, alors considérons ensemble Ésaïe. La prière d'Ézéchias était exaucée et Ésaïe fit reculer même de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'achat. Ésaïe 38, versets 5 et 8. Chers amis, supposons que ce que vous venez d'entendre vous paraît fortement invraisemblable. S'il vous plaît, ne vous laissez pas vous troubler par cela. Dieu comprend nos doutes et je vous prie de vous contenter simplement que c'est écrit et si c'est écrit, c'est la vérité. Concentrons-nous donc simplement sur les autres textes bibliques. Pas seulement sur ceux-ci. Ainsi, vous constaterez tôt ou tard que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, et que son enseignement est une absolue réalité. Voici le secret de la prière qui transporte des montagnes. C'est la foi qui est fondée sur la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Il ne nous faut pas une foi toujours instantanée. Tout devrait être accompli tout de suite, à la minute même. Hein ? On a tellement l'habitude dans notre vie de TGV que toute halle a entre 300 et 500 km à l'heure. Mais il nous faut la foi du grain de sénevé qui ne s'amollit jamais jusqu'à ce que l'accomplissement soit achevé. L'exécution de la promesse ne dépend pas de la vue seulement ou de la sensibilité d'une personne. Il dépend de la parole seule du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Du reste, au sujet de la prière et du jeûne, Jésus-Christ dit dans Saint Matthieu chapitre 17, versets 20 à 21, que cette sorte de démon, là il est parlé de démon, ne sort que par la prière et le jeûne. Or, Jésus était venu pour exécuter un miracle étonnant, car on avait amené un garçon épileptique aux disciples pour la guérison. Ils avaient essayé de chasser le démon, mais ils n'avaient pas réussi à le faire. Il est du reste possible que quelques-uns avaient cru que parce que les apôtres ne pouvaient pas guérir le garçon, c'était tout simplement la volonté de Dieu qu'il resterait un épileptique jusqu'à la fin de sa vie. Mais s'ils avaient cette idée-là, Jésus-Christ, en guérissant l'enfant, il montra qu'il n'avait pas tout à fait raison, qu'il n'avait pas surtout pas raison. Il dit clairement que les disciples ne pouvaient pas guérir le garçon à cause de leur incrédulité. Alors, il dit quelque chose d'étonnant. Il dit que si les disciples avaient de la foi comme un grain de sénevé, souvenez-vous, ils diraient à la montagne « Transporte-toi » et elle se transporterait. C'est là le pouvoir de la foi. Mais il s'agit évidemment d'obtenir cette foi. Ça, c'est encore autre chose. Jésus-Christ expliqua le sujet en révélant un autre grand secret dans l'art de prier. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ainsi, Jésus-Christ dit qu'il y a certains esprits maléfiques qui sont si puissants qu'il nous faut en effet la prière et le jeûne avant que l'exorcement puisse venir. On ne peut pas chasser des démons comme la maladie du garçon épileptique, sauf par le jeûne. On ne peut que guérir des maladies difficiles. Oui, on peut, mais pas tous. Là, il faut parfois la prière et le jeûne. Il y a certaines règles qui, vous devez bien comprendre, qui gouvernent le jeûne effectif. Car lorsque Jésus-Christ donnait sa leçon au sujet de la prière, dans Matthieu chapitre 6, il parlait aussi du jeûne et des erreurs que font certaines personnes quand ils jeûnent. Même dans l'action humble de jeûner, l'orgueil humain pourrait y entrer. Voyez-vous, certaines personnes jeûnent pour obtenir l'honneur des hommes. Tout cela est vain et sans aucun avantage. Hein? On peut vraiment dire c'est quelque chose qu'il faut éviter. Vanité des vanités, tout est vanité. Jésus-Christ dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour simplement montrer aux hommes qu'ils ont jeûné, qu'ils sont en train de souffrir. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, tu devrais plutôt parfumer la tête et laver ton visage afin de ne pas montrer autour de toi que tu es en train de jeûner, mais à ton Père céleste qui est dans les cieux, dans le lieu secret, là, au Père céleste, là tu peux montrer que tu jeûnes, et ton Père céleste qui voit absolument tout dans le secret te le rendra. Saint Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Il est donc évident que nous devons comprendre la bonne manière de jeûner. Il y a ceux qui jeûnent par des raisons esthétiques. Oh oui, pour être plus mince, plus belle. Il y a des autres qui jeûnent par des raisons de santé. Encore d'autres jeûnent afin qu'ils aient le pouvoir de Dieu dans leur vie. Mais quelques-uns qui jeûnent même pour se quereller. Et nous sommes informés de ces personnes-là dans Ésaïe chapitre 58, verset 4. Voici, vous jeûnez, est-il dit, pour vous disputer. Ça paraît bizarre, mais vrai. Et pour vous quereller. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. Et cela, le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, est-ce vraiment là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté et dénoue les liens de la servitude et renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Ésaïe, chapitre 58, versets 4 à 6. Donc, par le jeûne, il ne s'agit pas de discuter et de se quereller. Le jeûne aide des hommes et des femmes à apporter la délivrance de Dieu à tous ceux qui sont liés. Le jeûne tire des hommes de ce qui est naturel à ce qui est spirituel. Le jeûne anime donc les facultés. Le jeûne peut donner de la force à la prière. Le jeûne et la prière fortifient la foi jusqu'au point qu'elle peut même chasser les démons. Combien de temps doit jeûner une personne? Des jeûnes ordinaires peuvent durer peu de temps. Par exemple, Corneille, il jeûnait jusqu'à 3 heures de l'après-midi seulement. L'apôtre Paul jeûnait pendant 3 jours. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 9. Des jeûnes qui sont courts et fréquents devraient avoir un lieu normal dans la vie chrétienne. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Et aussi Saint Marc chapitre 2 versets 18 à 20. Donc les jeûnes longs qui sont mentionnés dans les Saintes Écritures était entrepris à cause d'un besoin accablant, un besoin spécial. Par exemple, Moïse a jeûné 40 jours quand il semblait que Israël était sur le point de périr par le jugement divin. Exode chapitre 32, verset 10 et chapitre 34, verset 28. Il y avait aussi des temps où Daniel jeûnait pendant des périodes longues. Une fois, lorsque un prince de Satan résista l'exaucement de sa prière, que Dieu avait pourtant entendu déjà du premier jour, eh bien Daniel ne manqua aucun mets délicat. Il ne mangea absolument rien qui était ce que le pharaon mangeait. Absolument pas, il évitait tous les mets délicats. Et finalement, sa prière était exaucée. Bien sûr, là, on voit qu'il avait simplement évité des mets délicats. Ce n'était pas directement un jeûne comme Moïse avait fait et le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, mais quand même. Et le Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous, il avait commencé son ministère après qu'il avait jeûné 40 jours. Et oui, il était là, après 40 jours, rempli du Saint-Esprit, avant qu'il avait jeûné, là, avant qu'il avait jeûné, mais après, il retourna totalement revêtu de quoi ? De la puissance de l'Esprit-Saint. Donc, après ce jeûne, Christ a pu retrouver quelque chose de tout-puissant. Il est revêtu de la puissance de l'Esprit-Saint. Il faut donc le jeûne si on veut faire transporter une montagne. Il y a quelques gens qui ont perdu l'espérance et ils ne peuvent pas la retrouver. Et quelques-uns sont même opprimés par Satan et ils ne peuvent pas s'affranchir. Il y a également des circonstances où l'innocent devient une victime de la folie des autres. Y a-t-il des espérances pour ces gens-là? On se le demande. Alors, je pense qu'il faut parfois le jeûne dans certains cas. Mais j'aimerais dire un petit mot qui sera une mise en garde pour tous ceux qui pensent qu'ils sont invulnérables et un peu trop orgueilleux. Par exemple, il y a des faits qui peuvent être contrôlés et qui sont formels. Une femme a dit, si Jésus-Christ et Moïse ont jeûné 40 jours, eh bien, c'est pour nous donner l'indication parfaite que nous devons faire de même. N'a-t-il pas dit, et vous ferez encore de plus grandes choses, etc. Ce qui voudrait dire, pourquoi pas jeûner 80 jours. Or, cette femme était diabétique et elle en est morte de son fameux jeûne. Un frère un peu fanfaron qui avait apparemment une arythmie. Il paraît que c'était une arythmie qui n'était pas trop inquiétante pour son travail, qui était un travail sédentaire à l'informatique. Mais tout de même, après avoir jeûné 4 jours, il a dû être hospitalisé. C'était donc pas une bonne idée. Moi-même, qui vous parle, avec mes 84 ans, croyez-vous que je vais commencer un jeûne de 40 jours. Dieu ne nous défend pas du tout que nous puissions garder un minimum de bon sens. Je ne vais pourtant pas simplement pour fanfaronner, m'inscrire pour faire un marathon de 30 kilomètres. Enfin, chers amis, veuillez lire attentivement Saint Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22. Matthieu chapitre 21, versets 21 et 22. Eh bien, dans ces versets, nous faisons remarquer un nouveau élément dans l'art de prier. La prière effective doit avoir l'esprit d'autorité. Après avoir prié la prière de la foi, on doit être prêt à commander avec foi. Hein? Il faut concrétiser ce dont nous avons prié. Un des objets de la prière, c'est de nous préparer à dominer les éléments pour les appliquer à la volonté de Dieu. Et c'est là le dessein original de Dieu quand il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. » Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu veut que l'homme conquiert les éléments et qu'il les dirige et qu'il les fasse soumettre à la volonté divine. Ce secret de l'autorité de la prière est important quand on veut transporter une montagne. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas qu'on devrait demander à Dieu de descendre du ciel et de transporter la montagne. Dieu peut le faire s'il le veut parce qu'il est souverain. Mais cela n'est pas l'enseignement de Christ. Christ dit, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Lorsque Moïse était arrivé à la mer Rouge, il trouva qu'il était enfermé par les montagnes de deux côtés à la fois et par la mer devant lui aussi. Et derrière lui, là, qu'est-ce qu'il y avait ? Derrière lui, il y avait toute une armée qui poursuivait Moïse, l'armée de Pharaon. La situation était donc très grave. Quoique l'Éternel lui eût promis qu'il combattrait pour les enfants d'Israël, eh bien tout de même, Moïse était un peu inquiet parce que l'armée sanguinaire de Pharaon le poursuivait de assez près. L'apôtre Paul parla au prophète Élimas, ce faux prophète Élimas, qui essayait à empêcher l'apôtre d'annoncer la bonne nouvelle. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent tout à coup sur Élimas et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 9 à 11. Il parla donc au démon dans la servante, rappelez-vous, ce démon qui était dans la servante, qui était même un démon de divinatrice, qui pouvait deviner, qui pouvait dire l'avenir. Et à l'heure même, eh bien, l'esprit sortit de cette femme. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 18. Jésus-Christ a dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Il ne nous dit pas de demander à Dieu de descendre lui-même, hein, de venir lui-même pour chasser les démons et pour guérir les malades. Il a donné aux hommes et aux femmes qui sont ses disciples, qui sont ceux qui croient en son Saint-Nom, il leur a donné quoi? Il leur a donné le pouvoir de le faire eux-mêmes. Il leur a donné son autorité. Il leur a permis de se servir de son Saint-Nom. S'ils se servent de son Saint-Nom avec la foi, par la foi, alors il y aura des résultats. Voici la dernière leçon au sujet de la prière. Il additionne toutes les autres leçons. Écoutez bien, on doit être déterminé. Je répète, nous devons être déterminés d'avoir la prière exaucée. La parabole, elle nous dit qu'il y aura des temps où il semble que la prière ne sera pas exaucée. Hein? Pourtant, on ne doit pas être découragé, mais on doit persévérer de plus en plus dans la prière, et ceci jusqu'à ce que vienne l'exaucement. Et à la fin, vous pouvez tenir pour certain que la prière sera exaucée. Alléluia. Étienne, premier martyr, souvenez-vous, pria pour les hommes qu'il lapidait, que Dieu puisse leur pardonner. Sa prière était-elle exaucée? Ah oui, car Saul de Tarse, meneur et persécuteur en chef des chrétiens, gardait même les vêtements de ceux qui le lapidaient et regardait le spectacle avec une satisfaction farouche. Ah ah! Mais Saul de Tarse, appelé plus tard l'apôtre Paul, devint le, on peut dire, le converti le plus célèbre, absolument, et le plus grand champion du christianisme. La prière d'Étienne n'était-elle pas exaucée, et ceci même d'une manière au-delà de ce qu'il avait même espéré? Depuis 1900 ans, c'est faux, depuis plus de 20 siècles maintenant, eh bien, l'Église, elle a prié. Oui, on est au 21e siècle et l'Église continue de prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelques-uns disent, oh là là, que Jésus ne viendra certainement jamais, que son règne ne viendra jamais. Mais pendant les siècles, Dieu a ramassé un à un toutes les prières de ses saints, et l'heure, croyez-moi, est bientôt là, à la porte. On est à la fin de la dispensation de la grâce, et la dispensation de jugement est à la porte, droit devant nous, où le grand ange prendra ses prières et les offrira dans l'encensoir devant le trône de Dieu. Le règne du Seigneur Jésus-Christ viendra bien sûr, et sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel, croyez-moi. Et disons là ensemble, alléluia, gloire à Dieu. Et nous pouvons dire, viens Seigneur Jésus-Christ, viens. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Seigneur, en nous ordonnant de te rendre le culte qui t'est dû, comme au Créateur du ciel et de la terre, au Maître souverain de toutes choses, oui, au Sauveur miséricordieux, en qui seul réside toute notre espérance. Tu n'as pas voulu que nous puissions nous acquitter de ce devoir par des vaines démonstrations extérieures seulement, ou par des actes auxquels le cœur ne participe absolument pas, par des paroles que démentent nos sentiments secrets. Tes regards pénètrent au fond de nos consciences et tu vois, ô Dieu, quelles sont nos dispositions. Et si c'est vraiment en esprit et en vérité que nous t'adorons en ce moment même, si notre cœur était animé d'une foi et d'un amour sincère, sans doute nos exercices de piété seraient sincères aussi, et ils seraient plus fréquents. Jamais ils ne nous sembleraient pénibles ni fastidieux de te prier, de lire et de méditer ta sainte parole. Mais les moments consacrés à ton culte, soit publics ou particuliers, seraient pour nous des moments de bonheur et de paix. Ce n'est point en multipliant nos exercices de piété que nous apprenons à te mieux aimer, mais nous reconnaissons, si nous t'aimons en réalité, au plus ou moins de désir que nous sentons d'en augmenter ou d'en abréger la durée. Si nous avons pour toi un véritable amour, il nous sera doux, oh oui, de te le dire et de t'implorer tes bénédictions si nos cœurs sont froids et indifférents. Nos heures de prière et de culte seront des heures de fatigue et même de contrainte. Que chacun de nous interroge tout simplement sa conscience et ne méconnaisse point les vrais sentiments de son cœur. Que ta grâce agisse en nous, ô Seigneur, pour nous attirer à toi et autour de nous, pour nous défendre contre tout danger. Oui, aie pitié de tous ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Que ta bonté se fasse sentir à toutes les créatures et qu'elle s'étende en particulier sur nos familles et sur nos amis. Ô Seigneur, que ton nom soit loué et béni à jamais. Merci Seigneur. Et chers amis, souvenez-vous que le Seigneur vous aime. Et merci encore de tout cœur pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Tout de même, c'est pas toujours facile de les assimiler, mais le Seigneur nous ouvre notre intelligence et nous donne la sagesse voulue pour comprendre les mystères de sa sainte parole. Merci, merci à vous et merci au Seigneur. Et à bientôt, à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.